Horrible. Je regarde vers le bas parce que j'ai mon écran en bas avec le nom des personnes qui se connectent. J'espère que vous allez bien, Daniel. Beaucoup de travail, effectivement, c'est une vie qui change pour à peu près tout le monde. Que ce soit le travail en télétravail, que ce soit les déplacements qui sont plus compliqués, que ce soit le contexte même de travail sur place dans les entreprises qui sont différents. Donc c'est beaucoup d'adaptation pour tous, effectivement. On est content de vous avoir avec nous, Daniel. Oui, effectivement. Là, c'est Daniel, le garçon Daniel Lopez. Elle est très silencieuse ce matin parce qu'elle a veillé avec moi jusqu'à 3 heures du matin. Là où son maître est, elle doit être. Et si son maître ne dort pas, elle va essayer de rester éveillée. Donc, elle a essayé de regarder les élections américaines avec moi jusqu'à 3 heures du matin. Elle a foncièrement échoué dans son entreprise. Mais elle a quand même résisté. Donc là, ce matin, elle est très fatiguée. Elle n'a même pas demandé à sortir à plusieurs reprises comme elle le fait habituellement. Donc elle est très fatiguée ce matin. Je rigole juste à la voir. Je la regardais ce matin quand je me suis levé. Et je me suis dit, oui, toi, tu as souffert. C'est pas la nuit que tu as l'habitude de passer. Voilà, même si elle ne comprenait rien strictement, puisqu'on parle de mon chien en passant, elle ne comprend rien aux élections, mais elle a regardé la télévision avec moi. Voilà. Alors, on va prier, et après ça, on va lire le texte d'aujourd'hui. On va revenir à ce qui est important pour nous ce matin, et c'est la parole de notre Dieu. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce pour cet instant que tu as préparé, que tu as disposé, et pour lequel, Seigneur, tu as pourvu. Une parole. Plusieurs disent que ces bénédictions matinales sont des déjeuners que nous prenons dans ta présence. Alors merci Seigneur pour la nourriture. Merci Seigneur pour ce breuvage spirituel que tu nous donnes. Et merci Seigneur parce que tout cela fait partie de ta provision. Une provision qui ne manque jamais. Une provision qui est totalement adaptée, totalement pensée pour ce que nous pouvons vivre, traverser aujourd'hui. Alors nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir nos pensées, afin, Seigneur, que nous puissions pleinement recevoir cette grâce que tu as préparée pour nous, cette bénédiction que tu as préparée pour nous. Je prie, Seigneur, que ta grâce et ta bénédiction reposent sur ma sœur et sur mon frère, et que tous ensemble, nous puissions avoir ce cœur ouvert, cette pensée ouverte à tes voix, à ta pensée, à ton plan et ta vision pour nous. En toute chose, Seigneur, nous élevons ton nom et nous proclamons que tu es encore et toujours et que tu restes et demeures assis sur le trône glorieux d'éternité en éternité. Tu es le roi des rois et nous t'élevons ainsi. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, je lis pour vous dans Proverbes au chapitre 3. Du verset 1 à 3, à 4. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Je répète pour vous le verset 3, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Alors que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Dans les deux premières journées de cette semaine, on a parlé de deux termes importants qui étaient les préceptes et les enseignements de Dieu. Les enseignements qui étaient la Torah et puis les préceptes qui étaient les mitzvahs. Et lorsqu'on est appelé peut-être à résumer ces deux termes en français, on dirait que les enseignements sont essentiellement le code de conduite que Dieu prescrit à ses enfants, alors que les mitzvahs seraient à ce moment-là, et là on parle ici des préceptes, ce serait le code moral de notre Dieu. Donc les actions et l'état d'être ou la pureté d'esprit qui devrait nous habiter en tant qu'enfants de Dieu. Donc après avoir vu ces deux codes de conduite, dans ce verset 3, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Après ces codes de conduite et ces codes de morale, Dieu veut que nous adjoignions à cela, que nous ajoutions au respect et au fait d'observer ces deux codes qui nous sont donnés, qu'on ajoute à cela des traits de caractère. Deux traits de caractère importants, la bonté et la fidélité. C'est comme si Dieu est en train de dire, voilà, dans ta conduite, je veux que tu exerces, je veux que tu manifestes de la bonté et de la fidélité. Et il dit, dans ton code moral, ou dans le code moral que je te donne, dans l'application de ce code moral, je veux que tu le fasses empreint, encore une fois, de bonté et de fidélité. Tant bonté que fidélité, c'est deux termes qu'on a étudiés déjà. Pour ceux qui prennent des notes, vous allez le retrouver dans les différents enseignements qu'on a eus depuis le début de ces bénédictions matinales. Deux termes importants, bonté, le terme chesed, C-H-E-C-E-D, D, C-H-E-C-E-D. Et lorsqu'on parle de bonté, quatre synonymes en français qui pourraient mieux expliquer ce qu'est la bonté dans le sens de chesed. On parle tout d'abord de grâce. Donc on parle d'un pardon qui n'est pas nécessairement mérité ou que nous n'acquérons pas par nos efforts, qui nous est donné nonobstant notre propension à aller le chercher ou non, nonobstant, on va dire, nos efforts à justifier le fait qu'on nous octroie une grâce. Donc la grâce, deuxièmement, la compassion. Donc il est en train de dire non seulement je veux que tu puisses manifester dans tes actions, mais aussi dans ton code moral, je veux que la grâce soit partie prenante de qui tu es, mais de surcroît à cela, on parle de compassion. Donc Dieu veut que dans mes actions, mais aussi dans mes pensées, dans mes motivations, je puisse être mu, que je puisse être mis en action par une dose profonde de compassion. Grâce, compassion, tendresse. C'est aussi un synonyme qu'on va avoir ou une traduction pour le terme chesed. Donc, et il y a une différence entre la grâce, entre la compassion et entre la tendresse. La tendresse, c'est avoir tous ces actes de douceur envers ceux qui nous entourent. Et enfin, gentillesse. Donc, grâce, compassion, tendresse, gentillesse. La grâce, donc, de pouvoir accorder aux autres, en dépit du non-mérite d'une action, la compassion, être ému par ceux qui nous entourent, la tendresse, être capable d'actions, de paroles, de gestes et d'attitudes remplies de douceur, et la gentillesse qui parle d'être serviable envers ceux qui nous entourent. Donc le Seigneur est en train de dire à ses enfants, le Seigneur est en train de te dire à toi et à moi qu'en dépit du respect de sa loi, en dépit d'un code moral, ou de surcroît plutôt qu'en dépit. Donc de surcroît à l'application de la loi de Dieu, de surcroît au fait d'observer les règles morales de Dieu. Ces règles morales et ces règles de conduite doivent être empreintes de grâce, de compassion, de tendresse, de gentillesse. Il y a trop souvent, et je suis convaincu que vous avez rencontré des gens avec cette attitude-là ou avec ce type de caractère-là. Ils sont très à cheval sur les règles, ils les appliquent, mais l'application de ces règles se fait sans pour autant avoir de compassion, sans pour autant avoir de douceur. On m'a déjà parlé quand j'étais petit de quelqu'un qu'on me disait qu'il m'aimait beaucoup, un adulte qui soi-disant m'aimait beaucoup, mais lorsque je regarde mon passé par rapport à cet adulte, et cette personne elle travaillait pour le Seigneur, puis on me disait, oui, cette personne-là t'aime tellement, mais lorsque je me rappelle des souvenirs d'enfance qui me lient à cette personne, je ne me rappelle pas d'affection, je ne me rappelle pas de douceur, je ne me rappelle pas de gentillesse, je ne me rappelle pas de grâce non plus. L'image que j'ai de cette personne, c'était une image de rigueur profonde, voire même de dureté, d'intransigeance, de manque d'amour, on va dire, hein, alors qu'on pouvait même parler d'autres personnes. Et chez qui j'étais capable de dénoter chez eux effectivement de la grâce, de la compassion, de la tendresse et de la gentillesse. Alors que nous manifestons notre respect aux règles et aux conduites que Dieu veut que nous ayons, nous devons manifester tout cela avec grâce, avec compassion, avec tendresse et avec gentillesse. C'est ce qu'on appelle la bonté, le chesed. Mais de surcroît à cela, on va utiliser un deuxième terme, le terme fidélité, de l'hébreu emet, E-M-E-T-H. Je répète, E-M-E-T-H, qui va nous parler de vérité, de fiabilité, de stabilité et de pérennité. Donc, fidélité emet, quatre mots comme on l'a fait pour la bonté tout à l'heure, vérité, fiabilité, stabilité, pérennité. Dans la manifestation ou dans l'accomplissement du code que Dieu nous donne de conduite et du code moral que Dieu nous donne, de surcroît à la bonté, nous devons aussi faire preuve de vérité. Ça veut dire que j'applique, mais ce n'est pas un faux semblant. J'applique ces règles-là parce que j'y adhère, parce que j'y crois, parce qu'elles deviennent partie prenante de moi-même. Ce n'est pas simplement une apparence. Combien d'entre nous, on est déçus régulièrement par des personnes en qui on place notre confiance, qui ont toute cette apparence d'intégrité, cette apparence de voire pratiquement de sainteté. Puis un jour, on apprend et on est déçu qu'il y a des failles chez cette personne. Je me rappelle des prédications d'un pasteur en particulier qui avait prêché, le pasteur Joe Beasley, qui avait prêché le jour de mon ordination. Et dans les conseils qu'il donnait aux trois personnes qui étaient ordonnées ce jour-là, il nous disait, faites attention parce que quand vous chutez, il y a des gens qui vont tomber avec vous parce que les gens vous regardent, parce que étant maintenant ordonné au ministère, il y a un certain standing de rigueur, un certain standing d'intégrité qu'on attend de vous qui va avec le fait d'être serviteur de Dieu. Et quand vous chutez, quand vous allez à l'encontre des règles morales que vous prêchez, que vous enseignez, dans votre chute, vous entraînez aussi d'autres personnes. Il était en train de nous dire, soyez vrai avec vos enseignements, soyez vrai avec le respect de la parole de Dieu et avec le respect des règles inhérentes au service de Dieu. Donc, dans la fidélité, dans le émettre, on veut effectivement une dose importante de vérité. On veut aussi quelqu'un qui est fiable. Donc, c'est pas quelqu'un qui est là pendant un moment, qui s'en va, qui vient, qui s'en va, qui vient, qui s'en va. On veut un engagement par rapport aux règles de Dieu, par rapport au code de conduite de Dieu. On veut un engagement qui dure et qui sur lequel on peut construire, que ce soit Dieu ou que ce soit l'Église. Très souvent, les gens nous demandent, mais pourquoi, pasteur, vous n'utilisez pas telle personne ou telle personne? Mais très souvent, c'est qu'on n'a pas encore vu chez cette personne les marques de fiabilité, les marques de fidélité qui sont importantes lorsqu'on construit avec quelqu'un ou lorsqu'on construit quelque chose sur quelqu'un. Donc, la fiabilité dans le sens que nous sommes là et qu'on peut nous faire confiance est importante. Vérité, fiabilité, stabilité. Ça va de pair avec la fiabilité. J'ai souvent parlé à des gens qui entrent dans le mariage et qui ne cessent de proclamer, ben, si ça va pas, je m'en vais. Si ça va pas, je m'en vais. Si ça va pas, je m'en vais. Mais quand tu construis un couple, quand tu construis une famille, avec cette menace que si les choses ne fonctionnent pas, je peux partir, mais cette confiance que je devrais bâtir, je suis en fait en train de la miner. Pour qu'un couple puisse connaître de la stabilité, pour qu'un couple puisse connaître une famille, une entreprise, une équipe de travail, une église, pour qu'un groupe puisse connaître de la stabilité, il faut aussi un engagement qui va au-delà de comment je me sens aujourd'hui, au-delà de comment je pourrais me sentir demain, hein, qui va au-delà des saisons, des circonstances, des situations, de l'environnement, au-delà du fait que les choses vont bien ou que les choses vont mal. La stabilité, c'est d'être là en dépit et malgré les saisons et les contextes. Et le Seigneur se doit et veut compter sur des enfants, sur des serviteurs, sur des servantes, sur lesquels il peut se dire, il y a une stabilité, ils sont fiables, je peux compter sur eux. Et enfin, après vérité, fiabilité, stabilité, pérennité. La pérennité, ça veut dire que ça dure sur le temps. La fidélité se voit avec le temps. Dire, je suis fidèle aujourd'hui, c'est ponctuel. La fidélité n'est pas d'aujourd'hui. La fidélité s'exprime sur une période de temps étendue. Et la fidélité s'arrête au moment où je ne suis plus fidèle. Dès l'instant où je brise mes vœux, dès l'instant où je brise mon engagement, je ne peux plus dire que je suis fidèle. J'étais fidèle jusqu'à ce moment-là. Mais à partir de cet instant, je ne le suis plus. Et le Seigneur veut des gens qui sont fidèles, donc qui perdurent, qui ont une pérennité dans leur engagement, dans leur service, dans leur respect des codes moraux et des codes de conduite que la parole de Dieu nous donne et dans le service de Dieu. C'est trop frustrant lorsqu'on travaille dans une équipe, lorsqu'on travaille dans une entreprise, lorsqu'on gère des coéquipiers ou lorsqu'on gère des employés, d'avoir des gens qui sont là tout simplement ponctuellement, à temps partiel. C'est comme moi j'embarque, mais après ça, c'est comme quand j'ai assez donné pendant 2 semaines, ben là on ne me voit plus pendant 1 mois. Puis je reviens pendant 2 semaines et je suis disparu encore pendant 1 mois. Puis je reviens pendant 1 mois et je suis disparu pendant 2 semaines. C'est difficile de construire, c'est difficile de bâtir quelque chose qui dure et qui perdure avec des gens qui ne manifestent pas de pérennité dans leur service. Donc le Seigneur était en train de dire, au-delà des codes de conduite, au-delà des codes de morale, je veux que vous soyez bon avec le chesed, je veux que vous soyez fidèles avec le emet et les différentes déclinaisons qu'on en a sorties. Qu'est-ce que ça veut dire foncièrement? Qu'est-ce qui est rempli de grâce, de compassion, de tendresse, de gentillesse, de vérité absolue, de fiabilité, de stabilité, de pérennité? Tout cela viendrait dans un terme, amour. Si j'ai l'amour, ben alors j'ai tout. Si effectivement je manifeste l'amour de Dieu, effectivement je suis un enfant sur lequel le Seigneur peut compter et sur lequel le Seigneur peut bâtir. Et voilà pourquoi Paul va dire dans le Nouveau Testament que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je pourrais avoir effectivement la puissance jusqu'à déplacer des montagnes. Tout à l'heure, je disais, je pourrais avoir la rectitude des commandements, la rectitude des engagements, mais si je n'ai pas cette dose d'amour, de compassion, de fidélité, de stabilité, d'engagement, de vérité qui est inclus là-dedans, je ne suis qu'une cymbale qui résonne. Sans l'amour, je ne suis rien. Alors quand le Seigneur disait, ou quand le Seigneur ici dans ce verset nous dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, il est en train de dire que l'amour finalement ne t'abandonne pas. Qu'elle ne t'abandonne pas, c'est le terme azab, A-Z-A-B, A-Z-A-B. Et les déclinaisons qu'on pourrait sortir du terme azab, abandonné, on parlerait de délaisser, de rejeter, de se départir d'une chose ou de négliger une chose. Délaisser, donc, si on ramène tout cela à l'amour ou à la bonté, fidélité, Seigneur est en train de dire, ne délaisse pas la bonté et la fidélité. Ne les abandonne pas pour autre chose. Délaisser, très souvent, c'est tout simplement que c'était important pendant un moment et après ça, je les ai laissés tomber. C'est différent de rejeter. Rejeter veut dire s'opposer à. Donc ne t'oppose pas à la manifestation de l'amour et de la fidélité, de la bonté et de la fidélité dans ton service et dans ta façon d'être. Il faut que la bonté se manifeste dans tes traits de caractère. Si effectivement Christ habite en toi, si effectivement l'Esprit de Dieu habite en toi, ben dans le fruit de la présence de l'Esprit de Dieu en toi, il devrait y avoir une dose de bonté, une dose de douceur, une dose de grâce, une dose d'amour, une dose de fidélité, une dose de vérité profonde et absolue. Donc elle ne t'abandonne pas, donc ne les délaisse pas, ne t'y oppose pas, ne les rejette pas, ne t'en départis pas. Ça veut dire ne les change pas pour autre chose, ne les abandonne pas au profit d'autre chose, ne les néglige pas, ça veut dire prends-en soin. Prends soin du fait de manifester de la bonté et du fait de manifester de la fidélité dans ton travail, dans ta façon d'être, dans ton engagement avec Dieu. Il va aller tellement dans cette pensée qu'il va dire que cet amour, que cette bonté, que cette fidélité, tu ne dois pas les abandonner. Pire encore, ou plus grand encore, lie-les à ton cou. Attache-les à ton cou. Deux images qui viennent ici. Lie-les à ton cou, un peu comme un joug qu'on ne peut pas oublier. Comme quelque chose qui vient peser sur ton cou, qui te rappelle constamment, voici à mon cou, je tiens amour, je tiens bonté, je tiens fidélité. Pour que tu ne puisses pas l'oublier. Lorsqu'on parle effectivement, et on va en parler dans Josué au chapitre 1, le verset 9 notamment, où on va dire d'attacher la parole de Dieu à notre cou, on est en train de dire, mets-le quelque part où tu ne peux pas l'oublier, où tu ne peux pas faire semblant de l'oublier, où tu ne peux pas même ne pas y penser. Que ça soit à ton cou, donc que tu sentes le poids à ton cou qui te rappelle l'importance de cet amour, de cette bonté, de cette fidélité que tu te dois de manifester. Mais de surcroît à cela, attaché à notre cou pour nous rappeler l'importance de ces deux éléments, mais de surcroît à cela que ce soit aussi comme un collier précieux qu'on ne peut ignorer, non plus toi, mais les gens qui sont autour de toi. Que lorsqu'ils te regardent et ils se posent des questions, mais pourquoi cette personne est si bonne? Pourquoi cette personne est si fidèle? Qu'elles comprennent que cela est exercé parce que c'est accroché à ton cou. Que ce soit comme un beau collier, un joyau, un précieux bijou que tu affiches dans le fonctionnement que tu as pour le Seigneur, dans le fonctionnement de ton ministère, dans le fonctionnement de ton service. Si tu le fais avec dureté, avec hargne, avec un manque de sensibilité, ça va se voir. Mais si tu le fais aussi avec énormément de compassion, si tu le fais avec énormément de bonté, si tu le fais avec les vraies raisons d'être, si tu le fais avec un vrai cœur, ça va se savoir, ça va se voir, ça va se sentir. Les gens sont capables de percevoir lorsque ce que tu offres, c'est simplement un faux semblant, ou lorsque tu offres la chose, c'est vraiment senti du plus profond de ton cœur. Ton service va être ressenti comme étant honnête ou faux, honnête ou malhonnête. Ton service va être ressenti comme étant « voici quelqu'un de réel, quelqu'un de véritable » ou « voilà tout simplement un faux, quelqu'un qui prétend mais qui n'a pas le cœur, qui n'a pas la compassion, qui n'a pas la douceur, qui n'a pas l'amour qui va avec son service. » Et là, on ne parle pas de pardonner ce qui est impardonnable. On ne parle pas de se fermer les yeux par rapport au péché. On ne parle pas de se fermer les yeux par rapport à des erreurs flagrantes ou autres. On dit simplement, même dans l'application des codes moraux et des codes de conduite de Dieu, même lorsque tu dois, par tes fonctions, rendre un jugement, que ce jugement soit rempli de grâce, d'amour, de compassion, que les gens puissent le voir et l'admirer chez toi. Juste pour vous donner une image, je vous parle régulièrement d'une prof de français que j'ai eue, qui était ma prof préférée de tous les profs que j'ai eus, école biblique, université, collège, lycée, peu importe, de tous les profs que j'ai eus, Madame Marc était exceptionnelle. Et je vous disais que Madame Marc, même lorsqu'elle nous donnait un zéro, en France, c'est 0 sur 20. C'est pas des pourcentages, c'est des notes sur 20. Même lorsqu'elle nous donnait un 0, on en ressortait avec un sourire et avec l'assurance que la prochaine fois, on taperait une méchante belle et bonne note. Pourquoi? Parce que de la façon qu'elle nous expliquait pourquoi elle avait été obligée de nous donner un 0, elle ne le faisait pas avec cette attitude que d'autres profs avaient qui nous dénigraient, qui nous humiliaient, qui était là, pratiquement, on aurait dit, pour nous blesser, mais elle le faisait d'une façon où elle voulait susciter de ses étudiants le meilleur la prochaine fois. Elle nous disait, regarde, j'ai été obligé de te mettre ce zéro parce que tu es hors sujet, parce que tu n'as pas du tout été là où tu devais aller. Par contre, si tu comprends ces choses, la prochaine fois, tu seras capable de bien le faire. Un peu, et ça me vient à l'esprit maintenant, un peu ce que Dieu va faire avec Caïn. Avant que Caïn n'aille tuer son frère, avant que Caïn ne tue Abel, il présente son offrande à Dieu et Dieu va lui dire, regarde, si tu fais attention, si tu relèves la tête, si tu prends garde à ton chemin, assurément tu peux faire mieux. Dieu nous dit la même chose à nous. Dieu exerce cette grâce et ses bontés même dans ses jugements. Alors nous, quand on exerce nos jugements, quand on pratique le ministère, quand on exerce notre autorité, il faut le faire aussi avec douceur, avec amour, avec grâce, pour que les gens regardent le collier qui est écrit « bonté et fidélité » et qu'ils comprennent d'où vient toute cette attitude remplie de grâce et d'amour. Dernier point, il dit « lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur ». Lis-les à ton cou, c'était la bonté et la fidélité qu'on devait lier à notre cou. Là, il dit « écris sur les tables de ton cœur la bonté et la fidélité ». Le Seigneur est en train de dire que ces principes soient gravés au plus profond de ton cœur. Ce n'est pas simplement quelque chose d'apparent. Il faut que ça vienne être gravé, sculpté. Vous voyez, comme quand vous promenez dans des lieux publics et que vous asseyez sur un banc public, parfois il y a des gens qui ont gravé des initiales, qui ont gravé des phrases. Était assis telle date, telle personne, ou là tu as l'abréviation pour le prénom d'un garçon, l'abréviation pour le prénom d'une jeune fille, et puis tu as un plus entre les deux, qui veut dire que des amoureux étaient assis sur ce banc un jour où que quelqu'un a manifesté son amour envers quelqu'un d'autre en gravant son nom sur ce banc public. Seigneur, on veut que la bonté et que la fidélité, donc que l'amour de Dieu, soit gravé au plus profond de notre cœur. Gravé sur les tables de notre cœur voulait dire donc gravé au plus profond de notre être. Comme si à l'intérieur de nous, le Seigneur avait fait sa marque. Est-ce que la bonté, est-ce que la grâce, est-ce que la fidélité, est-ce que la vérité, est-ce que l'amour de Dieu a fait sa marque en toi, qui fait en sorte que ton intérieur, ton tréfonds ou ton tréfort a été complètement modifié, a été complètement influencé par l'amour de Dieu. Donc si effectivement c'est gravé à l'intérieur, la Bible dit que la bouche s'exprime par l'abondance du cœur. Si mon cœur a été gravé par l'amour de Dieu, à ce moment-là, de ma bouche va aussi jaillir des paroles d'amour, de grâce, de bonté et de fidélité. Mais dernière pensée, quand on parle ici de graver sur la table du cœur, écrire sur la table du cœur, lorsqu'on parle de la table du cœur, la table est souvent synonyme de loi. Donc Dieu est en train de dire que dans la loi de ton cœur, que dans le fonctionnement de ton cœur, soit gravé amour. Dans tes principes de vie, la bonté et la fidélité doivent être partie prenante, voire partie primordiale. Il faut que dans ta façon d'être, on puisse dire c'est un bonhomme. Dans le bon sens du terme et dans le sens même plus poussé que le langage usuel, qu'on puisse dire de toi, c'est vraiment un bon homme. C'est vraiment une bonne femme. C'est vraiment de bonnes personnes. Parfois, on entend parler de gens autour de nous qui ne sont pas nécessairement des gens de foi, qui ne sont pas nécessairement des gens chrétiens, et on entend parler de ce qu'ils font. Et on se dit, mais c'est des gens, c'est des bonnes personnes, ils ont le cœur à la bonne place. Mais ça devrait être commun chez l'ensemble des chrétiens, ça devrait être commun chez l'ensemble du peuple de Dieu, qu'on puisse nous regarder puis dire, ses principes de vie, ça fait de lui un bon homme, ça fait de lui ça fait de elle une bonne femme, ça fait de eux de bons gens, de bonnes personnes. On le remarque à leurs principes de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Je sais qu'on a un peu dépassé. Permettez-moi juste de résumer ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu qu'après les codes de conduite et les codes moraux que Dieu nous donnait à travers sa parole, il nous disait, adjoignez à cela, ajoutez à cela de la bonté et de la fidélité. Dit en simples mots, quand vous pratiquez ma loi et quand cette loi se greffe et s'incruste dans vos vies et s'imprègne en vous, que vous ne passiez pas à côté non plus de l'amour que je veux que vous ayez et que vous manifestiez à travers vos actions, à travers vos paroles, à travers vos pensées. Donc, ne rejetez pas la bonté, ne rejetez pas l'amour, ne rejetez pas la fidélité que vous devez manifester dans la pratique de votre ministère et de votre service. Que cela soit lié à vous pour que vous ne puissiez pas l'oublier, que ça soit attaché à votre cou, que ça fasse un certain poids, tout simplement pour vous rappeler que vous avez quelque chose d'accroché autour du cou et quand vous passez, vous baissez la tête, vous voyez qu'il est écrit bonté, fidélité, amour. Et que non seulement ça soit attaché à votre cou pour que vous en rappeliez, mais que ça soit aussi comme un merveilleux et précieux collier que les gens admirent. Et enfin, que ce soit gravé au plus profond de votre cœur, que ce soit une loi de votre cœur, une loi à l'intérieur de vous, un principe de vie. Amour comme principe de vie de l'enfant de Dieu. Bonté, chesed. Grâce comme principe de vie de l'enfant de Dieu. Fidélité, hémet, vérité, fiabilité, stabilité comme étant un principe de vie de l'enfant de Dieu. Alors voilà ce qu'on avait pour nous ce matin. J'espère que vous avez été bénis. On va prier, après quoi on va vous saluer pour les personnes qui se sont jointes à nous depuis le début de notre enseignement. Et puis, on va vous laisser aller pour le restant de la journée. Alors, merci Seigneur de nous rappeler combien il est important effectivement d'être fidèle à tes principes, d'être fidèle à tes lois, à tes préceptes, à tes enseignements, à ta volonté, mais que cet accomplissement de ta volonté, ces actions, ces paroles, ces attitudes que tu nous demandes de manifester, tu veux qu'on le fasse d'une façon précisément empreinte d'amour, empreinte de grâce. Du chesed, que ce même chesed qui a été manifesté envers nous par toi, que nous soyons aussi en mesure de le manifester envers ceux qui nous entourent. Que nous soyons des gens qu'on appelle bons parce qu'ils sont foncièrement bons dans leur état, dans leur façon d'être, dans leur façon de faire, dans leur façon de parler, dans leur vie de tous les jours. Que nous soyons aussi déclarés comme des personnes qui sont émettes. Qui sont des gens qui sont fidèles, des gens qui sont vrais, de véritables serviteurs de Dieu, de véritables enfants de Dieu. Qu'on puisse veiller, Seigneur, à ce que nous ne venions pas par nos actions, par nos paroles ou par notre attitude, contredire ce que nos enseignements pourraient avoir prétendu préalablement. Alors, Seigneur, effectivement, nous ne voulons pas oublier, abandonner, négliger ce principe d'amour, de grâce, de fidélité que tu veux voir appliqué et gravé en nous. On veut, Seigneur, toujours s'en rappeler, comme ce joug qui est attaché au cou, pour qu'on puisse se rappeler l'importance d'être bon, l'importance d'être fidèle. On veut aussi, Seigneur, que les gens, lorsqu'ils regardent en nous, qu'ils puissent effectivement voir ton amour à travers nous. Manifesté en travers ma sœur, à travers mon frère, à travers l'ensemble de ton peuple. Seigneur, on veut graver, on veut que nos cœurs soient sculptés, soient façonnés par ton amour, comme des tables, comme des lois, comme des principes de vie. Seigneur, nous voulons vivre une vie remplie d'amour pour élever toute la gloire envers toi. Et attirer, Seigneur, encore plus de personnes à toi. Ta parole nous dit, et tu disais à tes disciples, c'est à l'amour que vous aurez les uns envers les autres, que tous sauront que vous êtes mes disciples. À travers cet amour que nous affichons, tous sauraient que nous sommes tes disciples. Seigneur, nous ne voulons pas te faire défaut. Seigneur, nous ne voulons pas te faire faux bond. Nous voulons manifester de l'amour, nous voulons manifester de la grâce, pour que tous sachent que nous sommes disciples du roi des rois, celui qui règne encore aujourd'hui, qui est assis sur le trône et qui répand sa grâce, sa bonté, sa fidélité sur chacun d'entre nous. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, pendant que je remonte un peu pour voir qui s'est joint à nous, simplement vous rappeler ce soir, mercredi 19h, donc rendez-vous avec le pasteur Sergio. Ce soir, pour l'étude biblique sur l'épître de Marc, avec comme thématique habituelle servir Dieu en temps de défi. Donc, on vous invite à être là ce soir à 19h de Montréal pour prendre ce temps d'étude avec le pasteur Sergio. Alors, bonjour, et je vais les nommer en rafale. Bonjour à Eric, bonjour à Milly, bonjour à Suze, bonjour à Denise. Bonjour à Yolène, bonjour à Juan Alberto, bonjour à Diana, bonjour à Florie, à Luis, bonjour à Farley, à Marie-André, bonjour à Ramon, bonjour à Nenji, bonjour à Marta Lucia, bonjour à Estéphanie, bonjour à ma tante Claudie, bonjour à Sylvie, on l'a déjà nommée, qui d'autre qu'on n'a pas nommé, bonjour à Maximiliano. Je crois que bonjour à Andrés et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc encore une fois, merci d'avoir été là. On se retrouve donc ce soir avec le pasteur Sergio à 19h et demain matin, bien sûr, pour la suite de nos bénédictions matinales à partir de 8h30. Et demain, c'est le verset 4. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Alors soyons là demain matin pour la poursuite de cette une série d'instructions que Dieu donne à son enfant. Que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous et on se retrouve ce soir 19h et demain matin 8h30. Bonne journée à tous, au revoir.